Et nous allons ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Luc chapitre 2, les versets 22 à 40. Le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui, et il avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple, quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi. Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, c'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Penuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à louer Dieu et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, les parents de Jésus retournèrent avec lui en Galilée et dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se développait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Au moment où ces choses sont écrites pour la première fois, l'époque prophétique, ou le temps des prophètes, est achevé depuis longtemps, dans les lignes que nous avons sous les yeux. Mais il y a en particulier deux personnages qui apparaissent et qui semblent nous ramener à une époque assez ancienne, où Dieu s'adressait directement de vive voix, comme il le faisait à Samuel, Élie ou Jérémie, et à quelques autres. Ces deux figures quasi-prophétiques ont pourtant quelque chose de plus que ceux que je viens de citer. Elles sont là, ces figures, pour saluer un avènement, reconnaître qu'une époque nouvelle vient de s'ouvrir. Les précédents l'annonçaient. Ceux-ci nous disent que ces choses-là sont arrivées et elles sont maintenant au milieu de nous. Luc ne présente les personnages de Siméon et d'Anne qu'au début de son évangile et on n'en entend plus parler par la suite. C'est souvent comme ça. Il y a des personnages marquants, on n'arrive pas au début d'un écrit sans raison, mais ils en disparaissent complètement, même chose pour Marie d'ailleurs, pour ne réapparaître éventuellement qu'à la fin. Mais cette courte apparition est suffisante pour offrir un préambule inoubliable à tout lecteur de ce texte. L'essentiel est dit en effet par Siméon. Cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction. une seule phrase pour annoncer tout ce qui va suivre, tout ce que le ministère de Jésus va dérouler jour après jour, mais sans donner de détails et sans pourtant se tromper sur l'essentiel. C'est un petit peu comme si Siméon disait « Cet enfant est venu montrer que personne ne pourra tomber sans que ce soit une nécessité ou un devoir de le relever. » Notre vie, comme l'Évangile, s'ouvre sur les mots du relèvement. L'Évangile commence par la résurrection alors que nous serions tentés de le situer à la fin, si évidemment on nous demandait notre avis. L'Évangile s'ouvre sur la résurrection, ou plutôt sur l'invitation à faire de la vie un relèvement. C'est l'invitation que nous fait Siméon dans cette prophétie. Et comme toutes les prophéties, elle s'adresse à l'instant et à tous les autres jours qui s'ouvriront devant nous, sans en deviner la teneur, évidemment, mais en nous disant, en nous invitant, de quoi ces jours qui s'ouvrent devant nous doivent être habités. Évidemment, cet embryon d'évangile passe presque inaperçu. Il ne fait pas partie des enseignements principaux du Nouveau Testament, et quand on se réfère à ces enseignements, si jamais on tombe sur Luc, sans faire exprès, il n'est même pas forcément cité chaque année entre Noël et l'Épiphanie. Donc on peut passer assez facilement sur ce texte, c'est peut-être pour ça qu'il faut insister sur ce qu'il représente. Au fond, cette annonce de Siméon est conforme à tout ce que le prophétisme biblique nous apprend. Dieu se manifeste en parole, et cette parole va changer quelque chose d'important, en commençant par quelques héritiers chanceux, d'abord un peu nombreux, et puis ensuite de plus en plus nombreux. Leur tâche sera ensuite de faire découvrir à d'autres comment cette parole entend changer le cours de l'histoire. Que Dieu entre dans l'histoire, évidemment, c'est ce que Siméon attendait. Il a eu largement le temps, il est très vieux, ça fait longtemps qu'il attend. Et comme tous les prophètes qui l'ont précédé, il a attendu celui qui était attendu, annoncé. Une attente de plusieurs siècles pour qu'enfin l'avenir s'ouvre sur un accomplissement, ou du moins la possibilité d'un accomplissement, toujours promise, toujours ramenée. Et pour ça, il suffit d'annoncer que celui qui est venu est là pour la chute et le relèvement de beaucoup. Et après cela, Siméon peut bien s'en aller, son travail est fait. Nous vivons, nous, longtemps après ces événements et cette promesse, et pourtant, elle est toujours aussi fraîche, aussi consommable d'une certaine manière, puisque par le simple souvenir, elle nous questionne sur notre raison d'être et sur le sens de notre vie. La date de péremption est donc encore loin, nous avons de quoi voir venir. Il est d'ailleurs intéressant de constater que dans le cas de Siméon, il suffit de dire cette simple phrase pour que sa propre vie, à lui, ait un sens, alors même qu'elle est sur le point de s'achever. Comme si l'expérience accumulée au cours des années n'était pas forcément capable de répondre à cette question du sens de la vie, comme s'il fallait aussi, même à cet âge-là, la bonne rencontre au bon moment. Siméon nous confie ce secret à l'oreille. « Ta vie aussi, comme la mienne, prendra un sens lorsque, jeune ou vieux, peu importe, tu seras au bon endroit, au bon moment, pour annoncer un temps neuf et une vie qui se remet debout, la tienne et celle des autres, par la même occasion. » Et c'est bien ici qu'il faut trouver l'irruption de Dieu dans l'histoire plutôt que dans une quelconque théorie de l'histoire qui le verrait un peu derrière chaque événement, ou derrière chaque événement marquant. En tout cas, une vie traversée par ces moments où la même vieille promesse est saisie, prise au sérieux et mise en pratique. Cela vaut mieux qu'une théorie de l'histoire. Parce qu'à vrai dire, c'est comme ça que Dieu entre dans nos histoires. Je sais bien qu'il serait plus rassurant d'avoir à disposition une théorie rassurante sur la direction que doit prendre l'histoire humaine, une finalité assurée. Tout le monde en a rêvé quelquefois, et ceux qui en ont rêvé et qui ont mis ce rêve à exécution l'ont transformé souvent en cauchemar. Mais nous savons aussi qu'il faut comprendre tout paradis, tout royaume, toute éternité comme des manifestations de l'Évangile au bon endroit et au bon moment. Siméon était au bon endroit et au bon moment pour recevoir et répercuter cette bonne nouvelle. Elle sera prise au sérieux, mise en pratique et provoquera de nombreux changements dans le monde, dont nous sommes d'ailleurs les héritiers. La tradition chrétienne a souvent vu en Marie une figure de l'Église et qui paraît ici un peu prise dans des tensions, des contradictions, nourrie par l'histoire du peuple d'Israël. Il n'était pas difficile pour Luc, qui écrit ces lignes, d'imaginer que la communauté était liée à la promesse de Dieu et qu'elle serait perpétuellement tentée par les divisions et les contradictions plutôt que de se mettre au service de l'Évangile. Une bonne nouvelle de relèvement promis à tous. Eh bien, évidemment, ça n'a pas manqué. Et pourtant, la promesse, simplement reprise par Siméon à la fin de sa vie, n'a rien de nouveau, même pour lui. C'est bien une reprise de l'enseignement des prophètes. Dieu n'est jamais plus présent dans notre histoire que quand nous nous consacrons à ceux qui sont tombés et qu'il s'agit de relever. C'est comme cela qu'a commencé l'histoire d'un peuple esclave conduit hors d'Égypte. L'idée d'un Dieu créateur ne s'est imposée que lentement et tardivement. La perception la plus ancienne de Dieu dans le Premier Testament est celle d'un Dieu qui vous fait sortir de l'esclavage et qui vous relève. C'est l'idée la plus ancienne. Siméon savait bien que ce message ancien était promis à un grand avenir. Pour la première fois dans l'histoire, un homme, à la fin de sa vie, est témoin que l'enfant qu'on lui présente est ce que Dieu offre de meilleur. L'engendrement, ça y est, c'est fait. La mise au monde, la perpétuelle nouveauté, et puis plus tard, porté par cet enfant, un avenir qui ne se ferme jamais malgré la dureté des temps, qui est de tous les temps, bien sûr. Mais Siméon n'est pas vieux pour rien. Ça sert parfois d'avoir des cheveux blancs. Il sait aussi par expérience que ça ne se fera pas sans peine. C'est pour ça qu'il parle des contradictions et des difficultés qui attendent l'humanité, pas seulement à cette époque troublée, la sienne l'était copieusement, mais à tout moment de l'histoire humaine, perpétuellement troublée. La nôtre est pas mal dans le genre. Ce sera justement l'objectif premier du ministère de Jésus, de mettre en rapport ou en conversation l'engendrement, la mise au monde. Et vous savez, un enfant ne se lève pas tout de suite, mais un jour ou l'autre, il faut bien qu'il se mette debout. Il est l'heure. À un moment donné, l'heure du relèvement est venue. Le ministère de Jésus a consisté exactement à faire cela, engendrer, attendre une vocation, se laisser prendre par le dynamisme divin, le mettre en conversation avec la pesanteur humaine, entendre encore et encore l'appel de Dieu et les questions perpétuelles que nous nous posons. Où est-ce chez moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Etc. La réponse de Jésus se fera non pas par un discours, même s'il a aussi pris ses disciples à part ou des foules à part et les a enseignés. Il répondra surtout par des guérisons, des libérations, la multiplication des pains, le rapprochement avec ceux que personne n'ose toucher par peur de la contagion, l'appel de ceux qui sont réprouvés, etc. etc. Ce sera principalement ça, sa réponse, beaucoup plus qu'une somme de discours qui, au fond, se résume assez vite. C'est pour cela qu'il prendra rapidement les coups les plus durs. Coupable de transmettre la bonne nouvelle de toujours, le culte et la tradition ne sont rien sans l'amour du prochain, l'égoïsme pseudo-spirituel ne sauvera pas vos constructions figées, intellectuelles ou architecturales, toutes neuves ou anciennes. Lorsque Jésus sera abattu par toutes les forces qui préfèrent chérir le périssable plutôt que d'accueillir le nouveau, il sera relevé à son tour, il ne pouvait pas manquer de l'être, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. La promesse attrapée au vol par Siméon ce jour-là, à la fin de sa vie, se fraiera encore et encore un passage. Où sont donc ceux dont la vocation est d'être redressés, relevés en permanence ? Mais ils sont ici, bien sûr, c'est chacune, chacun d'entre nous, et ils sont aussi dans le hasard de nos rencontres, en attente, sans le savoir, d'une possibilité d'être relevé, secouru, libéré par une parole toute simple. Une parole qui délivre du souci, du poids d'être soi, débarrassé de l'absurdité de sa vie, du poids des défis inutiles que d'autres nous imposent ou que nous nous imposons parfois à nous-mêmes, etc., etc. Être relevé parce que débarrassé de ses poids. Le résultat de l'annonce de Siméon est la suivante. On pourrait dire que tout le monde est apte au service. Personne ne sera réformé pour raison professionnelle ou familiale. Personne ne sera exempté de service actif. Nous ne changerons pas le monde de manière visible ni fracassante peut-être, mais nous pouvons contribuer à ce que du divin, de la nouveauté, de l'engendrement, un avenir qui s'ouvre, entre dans l'existence de ceux que nous croisons. C'est alors que la résurrection sera un fruit consommable, toujours consommable, bien préférable à un mystère ou une théorie pas toujours comestible. Les défis géopolitiques, climatiques, économiques et sociaux qui devront être relevés dans les années ou les décennies qui viennent nécessiteront, on le sait, une énergie colossale. C'est-à-dire, de notre part aussi, une disposition d'esprit comparable à celle d'un petit étudiant chinois debout devant un char. Nous devrons, à notre tour et à notre manière, tenter d'arrêter une tractopelle ou un bulldozer avec notre petit doigt. Ce n'est pas gagné. C'est peut-être parce que notre monde connaît une angoisse à la mesure de ces défis que la promesse faite à Marie et Joseph, Siméon et Anne est plus que jamais d'actualité. Il faudra pour cela une sorte de conversion individuelle permanente, ou si vous préférez, un entêtement de chacune et chacun d'entre nous à chercher partout les possibilités de relèvement dont le monde a besoin. Il faudra aussi, j'en suis persuadé, une profonde conversion des religions elles-mêmes. Elles devront renoncer à bénir des canons, renoncer à servir d'idéologie de remplacement pour alimenter des politiques agressives. Elles devront s'adresser à la raison en laissant s'exprimer des réponses libres aux questions qu'elles posent. Elles devront renoncer à leur position en surplomb, à leur prêchi-prêcha insupportable. Elles devront renoncer même à faire de leurs textes sacrés des titres de propriété qui permettent de reprendre son bien après avoir chassé le locataire, malgré la trêve hivernale. Vous voyez, dans ce domaine aussi, il faudra arrêter un bulldozer avec le petit doigt. Mais nous n'avons que ça à faire. Alors courage. Amen.